Bonjour Claude.
Bonjour Nicolas.
On parle d'un homme puissant qui a des problèmes.
Et on en parle dans le Figaro, c'est à noter, à signaler, heureux hasard, heureuse circonstance, en ce jour, en ce moment où nous déplorons le départ de Jean d'Ormesson. Rappelons-le, le Figaro, ce grand journal de la droite française, était le journal de Jean d'Ormesson. On en reparlera sur cette antenne tout au long de la journée. Le Figaro donc, qui parle, vous l'avez dit, d'un homme qui a des problèmes, Donald Trump, mais... est-ce vraiment lui qui a des problèmes et a-t-il tant de problèmes, cet homme qui préside les États-Unis? Le Figaro publie un dossier passionnant parce que dialectique. Les deux premières pages du journal racontent le monde de la norme, de la décence et de la justice. Et dans ce monde, Donald Trump a beaucoup d'ennuis. Il risque une accusation pour entrave à la justice. C'est là-bas un crime fédéral. Et le Figaro sur deux pages ne passe rien à Donald Trump. Interview sur ses dérèglements mentaux supposés, rappel de ses liens avec la Russie, ironie du journal et portrait façon les incorruptibles de ces enquêteurs qui menacent le président, emmenés par le vétéran Robert Mueller, ancien marine de 73 ans décoré au Vietnam, le sphinx, dit le Figaro. Tout le contraire du président donc. Ça, c'est les pages 1 et 2 du journal. Et puis on tourne la page et on est page 3 du Figaro. Et là, tout change. Nous sommes à Martinsburg, en Virginie occidentale. Et là-bas, les mamies aiment leur président Trump. Et elles boivent le café dans des mugs « Make America Great Again », son slogan présidentiel. C'est attendrissant et en même temps triste à pleurer parce que Martinsburg est une ville détruite. Elle suinte la pauvreté, dit le Figaro, et l'abandon. Ses anciennes filatures rouillent. On y meurt d'overdose. Mais cette misère se retrouve en Donald Trump. Le Figaro a rencontré dans sa ferme Tim Mugit, encadré par deux chiens féroces, le fusil à la main. Tim qui dit « Le président nous a réveillés. C'est la première fois qu'il y a quelqu'un à la Maison Blanche qui représente vraiment les gens comme moi. » Et tout est dit par le Figaro. Il y a deux Amériques et l'histoire n'est pas finie.
Et cette opposition, Claude, est aussi une histoire française.
Et on reste dans le Figaro. Ce matin, on est dans les pages débat et on lit deux textes qui ne sont pas là par hasard. Le premier est d'un essayiste qui s'appelle Édouard Tétrault. Il avertit « Trump est encore populaire et Trump est l'enfant d'Obama qui avait réussi économiquement, mais qui s'adressait essentiellement aux minorités et qui avait oublié ce que l'on appelle les petits blancs. » Et ceci, ce constat américain que Tétrault fait, c'est une leçon pour Emmanuel Macron, ajoute l'essayiste. Oui, bien sûr, le Donald Trump de Macron n'existe pas encore, mais, dans les mêmes pages du Figaro, un journaliste qui s'appelle Gérald Andrieux, qui vient de sortir un livre remarqué sur la France de la frontière, invite notre président de la République à l'accompagner sur les trottoirs du pays. Dans les rues de Bitche en Moselle, il verra comment ses prédécesseurs ont laissé crever les centres-villes. Sur les trottoirs de Givet, dans les Ardennes, il découvrira comment l'ouverture au libre-échange a eu la peau de Sellatex, une filature mythique. Tout ceci donc est dans les pages débat du Figaro qui relaye donc, ce journal de droite, la voix d'une droite antilibérale et c'est passionnant. Dans Le Monde, deux autres pages, passionnantes encore, posent les débats autour de Laurent Wauquiez. Est-ce lui le Trump de Macron? Est-il, se demande le journal, un réactionnaire, Wauquiez, un identitariste, un conservateur? On lit ceci sous la plume d'une essayiste, certainement réactionnaire et pro-Wauquiez, Béatrice Levet, je cite. Il a décidé de répondre non seulement au désarroi économique des classes populaires, mais aussi à leur insécurité culturelle. Il est, dit-elle, le porte-voix de la résistance que le peuple oppose à la conversion de la France au multiculturalisme. Vous savez, Nicolas, on lit tout cela en haut lieu. Les Échos racontent que l'on hésite autour d'Emmanuel Macron jusqu'où aller pour empêcher Laurent Wauquiez, le président qui mène déjà la politique économique dont rêvaient les électeurs de droite, devrait-il aussi durcir le ton sur les sujets de société et sur l'immigration? C'est un dilemme présidentiel qui est exposé par Cécile Cornudet. Son éditorial, Nicolas, chaque jour, est sans doute l'analyse dans la presse la plus fine des tendances politiques. On regarde donc, Trump et Wauquiez vont-ils faire changer Macron?
Une femme puissante a aussi des problèmes, Claude.
Theresa May, Premier ministre britannique, un éditorial du Financial Times, démolit avec des mots glacés pour ses reculades. Theresa May, qui a vu son petit allié, un parti unioniste d'Irlande du Nord, bloquer l'accord qu'elle préparait avec l'Europe, parce que ces unionistes ne veulent pas que l'Irlande du Nord reste alignée sur les règles européennes, comme Irlande du Sud indépendante. Et on réalise alors dans nos journaux ce que le Royaume-Uni perd avec le Brexit. On lit par exemple dans Les Échos que les bureaux les plus chers du monde ne sont plus à Londres, et ce titre étrange marquait la puissance de la place financière. On lit dans le New York Times, spécifiquement dans le supplément du New York Times qui est vendu avec Libération, que les Européens quittent le Royaume-Uni par dizaines de milliers et dorénavant, les hôpitaux sont en manque de personnel. On lit donc le déclin britannique et on imagine déjà, nous, Français, en tirer une gloire. La Croix constate la baisse des investissements au Royaume-Uni, mais célèbre le retour des investisseurs chez nous. La fin du French bashing et l'arrivée d'un effet Macron. C'est une bonne nouvelle donc qui irradie. Le Républicain Lorrain raconte un renouveau industriel à Trémery où le groupe PSA va assembler des moteurs électriques. L'Est Républicain raconte que ce même groupe PSA va organiser à Aubernais un géant des pièces détachées. Le même Est Républicain décrit la ruche d'une plateforme Amazon avant Noël en Saône-et-Loire et on y apprend qu'un Français, employé d'Amazon à Orléans, a inventé une machine à découper le scotch utilisé dorénavant dans le monde entier. Nous rayonnons Nicolas. Mais en même temps, bizarre, aurait dit Louis Jouvet, Le Monde publie un article extrêmement curieux sur les descendants de la famille Bonaparte et on le rencontre l'héritier légitime de la famille. Il vit à Londres. Jean-Christophe Albéric Ferdinand Napoléon Bonaparte, arrière petit-neveu du vainqueur d'Austerlitz, 31 ans, travaille dans la finance à Londres qu'il n'a pas encore quitté et je lis, parle avec un léger accent américain. Le descendant de l'empereur parle avec un léger accent américain. Jean d'Ormesson, qui nous quitte donc et qui alliait le bonheur de vivre à la malice des mots, l'aurait regretté cet accent beaucoup mieux que moi.
Merci Claude Ascolovitch.